Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons le privilège que nous avons de nous approcher de toi. Nous reconnaissons aussi que tu ne nous as pas donné sans rien pour nous montrer la voie à suivre, mais tu nous as donné ta parole. Nous confessons ta parole comme la vérité, comme parole vivante pour notre Église. Seigneur, accompagne-moi dans l'exposition de ce texte d'un Corinthien. Et Seigneur, que ton esprit parle à nos cœurs ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. On poursuit un petit bout de plus dans notre série sur l'épître, la première épître de Paul aux Corinthiens. Et c'est le chapitre 6, les versets 1 à 11 qui nous concernent aujourd'hui. Peut-être certains d'entre vous les ont déjà lus, d'autres pas. Mais permettez-moi de vous donner une image qui illustre un petit peu ces versets. Imaginez que l'Église est comme un mur en construction. Et puis pour qu'un... Je ne suis pas expert en construction de murs, mais je me suis renseigné. Et puis ce qui est important pour construire un mur qui soit solide, pour que les pierres tiennent ensemble les unes aux autres, il faut qu'elle soit nettoyée, il faut qu'elle soit propre. On ne peut pas prendre n'importe quel caillou et le mettre dans le mur comme ça. Si les pierres ne sont pas nettoyées, le mur ne va pas tenir. Et puis ce texte d'un Corinthiens 6 montre que certains membres de l'église de Corinthe, certaines de ces pierres n'étaient pas forcément bien nettoyées et certaines ne se laissaient pas facilement nettoyer. Ce qui fait qu'on a dans ce chapitre 6 un édifice un petit peu bancal qui doit se réajuster, qui doit être remis un petit peu en état, remis en ordre. Et sur cette image, je vous invite à lire les 11 premiers versets du chapitre 6 de la première épître de Paul aux Corinthiens. J'ai vu que Michel mettait aussi les textes entiers sur une slide PowerPoint, je me suis inspiré. Avec la même remarque, il y a des places devant, voilà. C'est vrai que c'est plus simple de faire comme ça, c'est plus court. Ce texte qui nous dit « Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non pas devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Combien plus les affaires de la vie courante. Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et ses sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et des sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints. Vous avez été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et bon dimanche. Une fois de plus, on voit qu'il y a des petites tensions dans l'église de Corinthe. Et Paul ne nous dit pas la nature de ces tensions, de ces procès. On ne sait pas pourquoi les Corinthiens se font des procès les uns aux autres. Ce qu'on voit dans ces versets, on voit que le désir de Paul de voir les membres de cette église de se réconcilier. Il souhaite cette réconciliation. Alors si on ne sait pas la nature de ces conflits, et nombreux sont les commentateurs qui essayent de deviner ce qu'il s'est passé dans cette église, on peut quand même faire une remarque qui me semble importante, c'est que les conflits qui minent l'église de Corinthe ici, il ne s'agit pas d'affaires criminelles, comme des abus sexuels, des vols ou des crimes. Ces comportements doivent être dénoncés immédiatement, et ce passage n'encourage pas à les passer sous silence. Il me semblait bien de le dire en préambule. Paul ne s'oppose pas à toute justice terrestre. Au contraire, même dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, les cinq premiers versets, Paul montre combien les magistrats ont leur importance et leur légitimité et combien ils servent pour le bien de l'Église. L'Église de Corinthe, comme celle d'aujourd'hui, doit reconnaître la compétence civile pour traiter de délits graves. Il s'agit certainement dans cette église de Corinthe de délits mineurs, et certains commentateurs parlent même d'affaires financières entre eux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que Paul intervient dans cette situation. J'ai oublié la zapette, Camille, mais si tu veux passer toi les slides. Comment est-ce que Paul intervient dans cette situation? Et je vous proposerai d'aborder cette réponse en quatre parties. D'abord, les versets 1 à 3. Le procès entre chrétiens sont incompatibles avec nos responsabilités futures. Voilà ce que Paul dit. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que nous jugerons le monde et les anges? Paul révèle ici une contradiction. Des croyants sont appelés à juger le monde et ils ne sont pas capables de régler des conflits qu'il y a entre eux. Ils sont tellement incapables de le faire qu'ils invitent des juges païens, des gens qui n'ont pas forcément la compétence pour le faire, ils les invitent dans l'église pour régler leurs problèmes. J'ai dû effacer une ligne. Inviter des juges externes à régler les affaires de la communauté est quelque chose d'impensable pour Paul. C'est impensable de le faire. Et pourquoi c'est impensable? Parce qu'il y a un double dommage qu'on peut relever. D'abord, parce que c'est un contre-témoignage envers l'extérieur. Jésus n'a-t-il pas dit que c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples? Le témoignage de l'église de Corinthe est bafoué. Et le deuxième dommage, c'est que ces Corinthiens se font du tort à eux-mêmes aussi. En se mettant les uns contre les autres, ils font du tort à eux-mêmes en tant qu'église, en tant que peuple de Dieu, parce qu'ils sont appelés à juger le monde et les anges. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce jugement-là? On voit que différents textes dans le Nouveau Testament nous parlent de l'implication des croyants dans le jugement futur. Alors heureusement, ce n'est pas dans notre état actuel qu'on va juger le monde, ni même les anges, mais il y a quelque chose de très profond dans ce que Paul dit ici. Il fait un lien avec notre union à Christ. Nous sommes unis à Christ, et parce que nous sommes en Christ avec lui, nous sommes conduits dans son œuvre d'être juges du monde et des anges. Nous sommes représentés par Christ. Et pour souligner l'importance de cette union, Paul va dire aux Corinthiens, il va même aller jusqu'à dire, mais vous jugerez les gens, les anges, ces créatures qui par nature sont la classe la plus élevée des êtres créés. Vous serez juste des anges, non pas par vous-même, mais parce que vous êtes unis à Christ. C'est comme s'il leur disait, si vous devez un jour juger ces créatures extraordinaires que sont les anges, vous devriez certainement être en mesure de gérer les conflits qu'il y a au sein de votre Église. Vous avez été mis à part pour Dieu. Vous êtes des personnes gouvernées par la parole de Dieu et habilitées par le Saint-Esprit. Pourquoi donc invitez-vous des juges externes dans vos procès internes ? Là, ce qu'on peut voir, c'est que les procès auxquels se livrent les Corinthiens ne reflètent finalement pas leur union à Christ, ni leur identité de peuple de Dieu. J'arrive au deuxième point, les versets 4 à 8, où les procès entre chrétiens sont incompatibles avec le fonctionnement d'une église. Sous-entendu qu'une église ne peut pas avoir de procès à l'interne. Alors certainement, on peut discuter, mais pas des procès comme les Corinthiens en font. Et s'il y a des conflits, l'Église, selon Paul, devrait être capable de traiter ces divergences. Et même plus, l'Église est mieux habilitée à le faire que certains juges païens. Au verset 5, Paul use de sarcasme, comme un petit peu tout au long de ces versets. Oui, dit, je le dis à votre honte. Il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Souvenez-vous, on a vu précédemment que les Corinthiens se vantaient de leur sagesse et de leur intelligence. Finalement, il n'en est rien. Ils ne sont ni sages ni intelligents. Je le dis à votre honte, il n'y a pas un seul sage qui puisse juger entre ses frères et ses sœurs. En faisant continuellement appel à des juges païens, l'Église de Corinthe cause du tort à Christ et à l'Évangile. Et dans cette section-là, Paul leur dit, mais il vaut mieux perdre quelque chose, peut-être de l'argent, que de perdre un frère ou une sœur. Vaut mieux être dépouillé de quelque chose que de perdre un frère ou une sœur. Est-ce que nous sommes prêts à perdre quelque chose? Une réputation, peut-être un peu d'argent, je ne sais pas. Est-ce que nous sommes prêts à perdre quelque chose pour éviter de perdre un frère ou une sœur? Ça ne veut pas dire ne pas dénoncer l'injustice. Paul dit clairement que l'Église peut régler ses problèmes, c'est pas qu'il faut pas en parler. Mais il invite les Corinthiens à se centrer sur l'essentiel. Sommes-nous prêts à renoncer à quelque chose pour garder l'harmonie fraternelle? Et cette question me paraît importante dans une époque où les médias sont très tranchés sur différentes questions. Un exemple récent était la crise du Covid, qui était l'occasion pour beaucoup de chrétiens de se tirer dans les pattes. Et certaines églises en gardent encore des marques douloureuses. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à des choses pour garder l'harmonie fraternelle? Permettez-moi aussi de citer un sujet actuel, et je me mouille en disant cela, mais la guerre au Moyen-Orient. Ce qu'il se passe, qui touche l'Église, nous l'avons vu, nous le voyons. Un sujet qui peut être source de conflits. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à quelque chose? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à des positions théologiques qui peuvent être discutées? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à notre fierté pour garder l'amour fraternel? Est-ce que nous sommes prêts à laisser nos différends de côté pour nous battre ensemble pour la réputation de notre Église et par extension de Christ et de l'Évangile? Paul dit au travers de ces versets que le comportement conflictuel des Corinthiens est incompatible avec leur nouvelle identité en Christ. Cette identité en Christ qui est un fondement solide, un fondement nécessaire, et tout doit découler de là. C'est OK s'il y a des désaccords, mais tout repose sur notre identité en Christ, et il ne faut pas chasser un frère, ne pas créer des procès, des conflits, au risque de mettre la communauté en péril. Et Paul revient à cette identité en Christ dans cette dernière partie, parce qu'il y a quelque chose d'important qui se joue ici. Les versets 9 à 11, Paul commence par rappeler aux Corinthiens ce qu'ils étaient avant que Jésus ne les sauve. Il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Et c'est là ce que vous étiez certains d'entre vous. Céline parle de la nature et du style de vie des croyants avant qu'ils n'acceptent Christ. Et c'est la destinée qui est réservée à ceux qui ne placent pas leur confiance en Christ. Paul parle ici de pratique. Si vous mettez votre identité là-dedans, si ce qu'il vous définit, c'est toute cette liste, ça pose un petit problème. Il est possible qu'un chrétien commette n'importe quel péché de cette liste. C'est possible. Mais ce qui est en jeu ici, c'est la manière dont nous nous définissons, où nous plaçons notre identité. Et le verset 11 le montre, que cet enjeu est vraiment l'identité. Paul résume ici l'identité qui nous est donnée si nous sommes à Christ. La lutte contre ces péchés peut être encore actuelle, mais l'identité des chrétiens est en Christ. Mais vous avez été lavés, déclarés saints, déclarés justes, au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été lavés. Ça fait référence à la nouvelle naissance du croyant, à notre conversion en Christ. Nous avons été déclarés saints. Déclarer saint marque une position. On pense souvent à la sanctification en matière de progression dans la vie chrétienne. Il faut toujours plus ressembler à Christ. C'est juste. Mais ici, déclarer saint montre une position. Nous sommes mis à part. En Christ, Dieu nous a pris d'un endroit et nous a mis à part. C'est un nouveau statut donné par Dieu, celui d'être déclaré saint. Ensuite, déclarer juste montre notre acquittement. Dieu nous voit sans péché par l'œuvre de Christ. On peut se tenir devant Dieu comme innocent parce que Christ a pris notre place. Il a accompli la justice et il a accompli la justice et il nous la donne. C'est uniquement sur la base de son sacrifice à la croix que nous sommes déclarés justes. Voilà ce que nous sommes si nous sommes en Christ, lavés, déclarés saints, déclarés justes. Finalement, ce que Paul veut dire aux Corinthiens, devenez ce que vous êtes. Devenez ce que vous êtes. Et c'est sur cette base que Paul appelle à l'apaisement dans cette église de Corinthe. Devenez ce que vous êtes. Alors posons-nous cette question, qu'est-ce que notre identité chrétienne change dans notre manière de gérer les conflits ? Derrière les conflits, il y a quelques enjeux, et j'aimerais en relever deux avec vous. C'est que dans un conflit, on peut avoir tendance à recourir à la loi. Il faut que, il n'y a qu'à faire que. Et parfois même, on peut se servir de la parole de Dieu pour montrer aux autres à quel point ils ont tort. Ça a été parfois le cas dans mes études en théologie, où finalement on était sûr de nos positions, puis on s'envoie des versets pour montrer à l'autre qu'il a tort. Mais parfois c'est aussi ce que nous pouvons avoir tendance à faire. Et finalement, on peut s'éloigner les uns des autres. Il ne faut pas oublier que nous sommes toutes et tous pardonnés et que nous bénéficions du pardon de notre Seigneur. Les conflits sont des fois aussi parfois animés par nos passions. Alors ces passions ne sont pas mauvaises en soi, mais ces passions peuvent déclencher des attentes, des exigences parfois, qui peuvent nous amener à juger l'autre, et peut-être même à aller jusqu'à le condamner. Alors que faire? Que faire pour régler des conflits? Paul l'a très bien dit, en nous souvenant de qui nous sommes en Christ, en invitant Christ au cœur de nos relations. Quand il y a un conflit, je remarque qu'on a souvent tendance tout d'un coup à être très horizontal, à s'adresser à la personne en face. Il y en a un qui a raison, l'autre a tort. C'est souvent l'autre qui a tort d'ailleurs. Est-ce qu'on invite cette dimension de Jésus dans nos relations? Est-ce que nous voyons l'autre comme lavé, déclaré saint, déclaré juste? Notre identité en Christ nous appelle à vivre des relations en 3D. Oui, j'aime bien les dimensions. En incluant Dieu dans ces relations, au cœur des conflits. C'est-à-dire simplement être conscient de soi, conscient de l'autre, et que Jésus est là au milieu. J'aimerais vous soumettre quelques questions pour prolonger la réflexion. Ces questions, vous pouvez les prendre avec vous dans des groupes de prière ou en famille. Ces questions sont les suivantes. Quels sont selon vous les domaines de la vie ecclésiale que le monde n'est pas en mesure de juger? En quoi le rappel haït la faute? Aïe, c'est bon. En quoi le rappel de mon identité passée et mon identité présente change ma manière d'aborder les conflits? Finalement, après avoir étudié ces versets ensemble, comment est-ce qu'on complète la suite de l'exhortation de Paul avec nos mots lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre? Trois petits points. Je vous invite à la prière. Oui, notre Dieu, c'est par toi que nous pouvons nous tenir devant ta présence. Oui, Seigneur Jésus, tu nous as lavés, tu nous as mis à part pour être ton peuple. Tu nous as justifiés. Et Seigneur, comme on l'a dit, vu ces derniers dimanches à la Pentecôte, nous sommes aussi représentants de toi auprès du monde de cette ville de Cossonay. Oui Seigneur, ce que nous voulons, c'est que ta gloire rayonne dans cette ville, dans cette région. Seigneur, garde-nous de tomber dans ces travers comme l'église de Corinthe. Cela peut être si vite arrivé. Seigneur, donne-nous toujours l'humilité nécessaire pour revenir à toi, à ta parole. Oui, Seigneur, cette épître aux Corinthiens, ce texte, nous montre que tout n'a pas été toujours rose dans ces églises, dans ces premières églises. Et combien d'églises encore actuelles traversent des crises, des conflits. Seigneur, nous te remettons tous nos frères et nos sœurs qui sont dans ces situations-là, en te demandant d'intervenir et ta protection. Oui, Seigneur, que ce texte soit aussi une mise en garde pour notre communauté ici. Nous ne voulons pas nous croire meilleurs que d'autres. Que ta parole, Seigneur, fasse son œuvre au milieu de nous ce matin. En ton nom, Jésus. Amen.